RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit avec vous, Ludovic Obraniak et Jonathan McCarthy. Le vendredi, il y a Ligue 1, il y a Ligue 2. Il y a également une grosse actu niçoise et marseillaise qu'on va détailler avec vous d'ici minuit. 32-16, bien sûr, pour nous appeler. Hashtag RMC Live sur Twitter. Direct Studio. Tiens, j'ai quelques messages sur Direct Studio. Rapilo qui me dit et Reims, alors 4 points sur 6 contre Lyon cette année. Bravo au Stade de Reims. On pourra en reparler un peu plus tard. Et puis, j'ai Morgan qui dit Bruno Genesio a raison. Aulas doit clarifier la situation, c'est-à-dire lui dire que c'est fini. L'équipe n'a aucun lien tactique, mais forme des cadres, Marcelo, Fekir, voilà. Donc Morgan veut la fin de Genesio. On va voir si Pierre est d'accord avec ça. Pierre, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Jonathan et salut Ludo.
Salut Pierre.
Pierre, t'étais au stade peut-être ?
Je suis abonné Gilbert, j'avais tellement envie de galer que je suis resté dans le canapé pour préparer ma vidéo pour
l'After Academy.
Exactement. Qui n'a pas été au formidable outil.
Ouais, exactement. Non, j'ai. Tu vois, je m'attendais tout à fait à ce match-là. Et c'est ça, vous êtes vraiment rentré dans le détail du match. Mais moi, je veux généraliser depuis le début de saison. Le seul match que j'ai vu abouti, c'était contre Monaco. Mais pas grâce à Lyon, parce que Monaco, il n'y avait rien du tout. J'ai pas trouvé un match cette année de l'OL où on fait 90 minutes impeccables sur un match.
Contre Marseille ?
Marseille, mais à la mi-temps.
Bah, et contre City ?
Non mais en championnat je parle bien, en championnat il n'y a rien du tout, genre on perd chez nous contre Bordeaux, on fait un partout catastrophique, contre Rennes on perd à la maison, contre Saint-Etienne on le gagne à l'arrache, ce soir c'est catastrophique, contre Strasbourg l'équipe de Gilbert il y a 3 jours c'est horrible, même contre une équipe de National 3 on a failli être mené à la mi-temps, et ça je trouve ça catastrophique, donc moi aujourd'hui je suis d'accord avec l'auditeur qui est passé avant et tous les tweets que je vois avec vous. Mais c'est pas possible de garder Genesio, j'ai rien contre lui. Mais c'est catastrophique depuis 3 ans, il n'y a aucune rigueur, il n'y a jamais rien. Aujourd'hui, c'est tout le temps le même schéma tactique, 3-5-2, il l'a trouvé. Et là, Jonathan, je te suis à 100%. Le 4-4-2, il a le droit d'alterner de temps en temps, de mettre
un 3-5-2
contre le Barça. Pourquoi pas ? Mais là, on joue à la maison, mais 3 arrières centraux contre Reims.
Il faut revenir avec le 4-4 de losange.
Bah ouais, et puis alterner, c'est des joueurs professionnels. Je pense qu'ils ont le droit de faire un 4-4-2 contre 1, c'est de revenir à 3-5-2 s'il faut au prochain match.
En fonction de l'adversaire.
Exactement. Et là,
tu sais ce qui me gêne sur ce match, c'est qu'au moment où il repasse à 4 derrière, c'est qu'il laisse Dombélé et Aouar seul devant la défense.
Exactement.
Alors ça peut marcher, mais dans cette configuration de match-là où tu sais que tu vas devoir attaquer, t'as besoin quand même d'un mec qui assure la sécurité. Tu vois, dans l'axe, dans la perte du milieu.
Tu tombes sur Genesio, bon, très bien, c'est ton point de vue, Pierre. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de Fekir. Comment t'expliques ce qui se passe actuellement avec Fekir ? Je te parle entre le match de Strasbourg et ce soir.
Bien sûr. Eh ben, moi, je te fais la même remarque, si tu veux. C'est Fekir est certainement hors de forme, mais comment ça se fait qu'il commence le match et qu'il sort à la mi-temps ?
Exactement.
Et comment ça se fait que Mendy, il y a 2 jours ou il y a 3 jours, contre Strasbourg, il sort à la mi-temps, donc j'imagine qu'il est blessé. 3 jours après, il est titulaire.
On avait dit contre Strasbourg, hein, c'était choix de Genesio.
Oui. Bah, je crois que Genesio, il a dit, il a senti une petite pointe. Après, j'ai préféré assurer pour pas qu'il se blesse. 3 jours après, il est titulaire. Donc, Fekir, c'est le même principe. Il est hors de forme, il est nul. Bah, pourquoi il est titulaire, alors? Et il le voit pas à l'entraînement? Il est pas à l'entraînement, Genesio?
Quel bilan peut-on tirer de la saison de Fekir jusque-là? Très franchement.
Bah, moi, j'adore Fekir, hein. Je veux surtout pas dire de mal de lui. Aujourd'hui,
non, mais objectivement.
Il nous a fait un match de folie en
sans remettre en cause ce qu'il a fait à Lyon, ce qui signifie pour toi, quel bilan tu tires du début de saison de Fekir?
Encore une fois, aujourd'hui, moi je te dis, il a fait son métier en Ligue des Champions, il nous a sauvé le match à City, il nous a sauvé la qualif à Donetsk, et pour moi ça suffit largement. Maintenant, je m'interroge, c'est vrai, sur son état physique, mais encore une fois, si jamais il est pas bon physiquement ou qu'il est hors de forme, ben on doit faire le choix de pas le mettre.
J'ai l'impression que c'est pas forcément qu'une question physique, qu'il y a aussi une sorte de spleen qui hante l'esprit de Nabil Fekir.
Ouais, tu veux dire le transfert à Liverpool avorté?
Ah, de faire la Coupe du Monde, d'être champion du monde, de croire que tu vas partir. Et puis, parce que le problème, c'est que s'il était tout le temps nul, pourquoi pas? Mais dans les gros matchs.
Un coup de mou post-Coupe du Monde, ouais, comme peut avoir peut-être un Mbappé en ce moment.
Parce que dans les gros matchs, il a été là. Dans tous les gros matchs de Lyon, il a été très bon. Il a été très bon, on n'a pas senti qu'il était en retard physiquement, on l'a senti là, présent dans l'impact, vif, très solide sur ses appuis, présent dans le jeu, étincelant face à Manchester City. Et du coup, j'ai un peu du mal à croire que c'est juste un problème physique. Je pense qu'il y a de ça, que c'est la reprise, etc. Et en plus, c'est un joueur qui est pas très grand, qui a quand même une musculature qui est importante relativement à sa taille. Donc je pense qu'il a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour se remettre dans le rythme et reprendre le cours des matchs. Mais voilà, si encore il avait été moins bon en Ligue des Champions, je serais d'accord avec le fait que ce soit juste physique, mais là, je me dis qu'il y a peut-être un petit coup de blues, tu vois. Le petit coup de blues de dire, j'aurais dû être à Liverpool, jouer à la tête du championnat d'Angleterre, faire des matchs de gala, et là, je me fais un match contre Reims à domicile, bah, fais chier.
Non. Pierre, merci beaucoup.
Merci.
Inconsciemment, hein.
T'as aussi, salut Pierre. T'as aussi le autour de lui, c'est-à-dire que, je peux pas m'empêcher de constater l'atmosphère générale. Il y a une atmosphère un peu morose quand tu regardes cette équipe. Je sens pas d'affinité footballistique ni humaine entre les
entre Depay et lui.
Non, mais tous.
Ça crève les yeux entre les deux.
Tous, ça transpire pas la cohabitation. Ça, tu sens que moi quand je jouais, j'aimais avoir des gens autour de moi avec qui je m'entendais.
Ce n'est pas une solidarité.
Mais non, mais je sais que ce type de joueur-là, il aime bien combiner, il aime bien être entouré, il aime bien trouver des 1-2, des et voilà, il a besoin, ce type de joueur a besoin de trouver des combinaisons. Or, quand il a le ballon, je sais pas, je sens qu'avec les autres, il y a des fois où j'ai pas l'impression qu'il parle le même football.
Et
je pense que ça doit aussi le peser un peu.
Jérôme nous dit sur Direct Studio, dommage que vous ne parliez pas du bon match de Reims avec un petit budget des joueurs qui mouent le maillot.
Non,
mais attends, moi, je dis à Jérôme, appelle-nous 32-16, Coco. Parce que là, on a que des Lyonnais, qui appellent, là. Hein. Les Raymond les attend, hein. Alors, Amir et moi, si vous voulez parler de notre club, dans l'after, c'est maintenant. 32-16. Tant pis.
Allez, Reims, hein.
Mounir, supporter lyonnais, salut.
Salut, bonsoir l'équipe.
Salut, Mounir, salut.
Ça va, Mounir?
Alors moi, le problème principal que je pointerais du doigt, c'est vraiment une attitude générale qui est pas convenable pour des professionnels, en fait. Je sais pas, les gars, ils sont payés des millions pour faire des choses que moi, je ne ferais pas, par exemple. Et là, je vois des trucs qui font que, je sais pas, il n'y a pas d'activité, il n'y a aucune envie. Ils sont menés 1-0, il n'y a personne qui bouge. Le pressing, il est fait en décalé. Il y en a deux qui y vont, trois qui y vont pas. Il y a une action vraiment sur le côté, je sais plus, à la 70e ou 60e, je m'en rappelle plus. Où, c'est criant, enfin. Les Rémois passaient comme dans du beurre, comme si on jouait le Bayern ou bien le Barça. Enfin, je comprends pas. La différence entre nous et l'Olympique de Marseille, par exemple, on est dans la même situation. On est à, je crois, 4-5 points d'écart d'eux, un truc comme ça. Et je suis désolé, mais dans l'implication, dans la motivation, tout est pareil. C'est juste que nous, supporters lyonnais, je pense qu'on est moins passionné, moins exigeant que les supporters marseillais qui tirent la sonnette d'alarme dès qu'il faut.
Non, parce que sur la saison de Lyon, vous avez quand même eu des fulgurances plus que remarquables.
Et
pas qu'en Ligue des Champions, même en championnat, il y a eu des phases de jeu, des mi-temps où tu dis, ok, putain, cette équipe, elle joue vraiment bien. Mais le vrai problème, et là, tu l'as très justement souligné, Mounir, c'est que, tu vois, en première mi-temps, quand Lyon doit faire le jeu, l'équipe, elle est incapable de le faire ensemble. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui arrive à trouver un brin de solidarité quand elle souffre. Que par la souffrance. C'est une équipe un peu maso, en fait.
Ouais, c'est ça. Le problème, il est collectif et individuel à la fois, en fait. C'est que personne ne se donne. Par exemple, Memphis, je suis désolé, mais je suis obligé de le pointer du doigt. C'est quand même notre meilleur joueur, entre guillemets, parce que tout le monde le dit. Et l'attitude de Memphis, elle est insoutenable. Enfin, il se prend pour Lionel Messi, alors qu'il n'a même pas un des orteils de Lionel Messi, en fait. C'est ça que je comprends pas.
Ouais.
Le gars, il marche 88 minutes sur 90. Ses stats, je l'appelle le miracle statistique parce qu'il a des stats de folie. Sauf que quand il marque pas ou quand il donne pas une passe décisive, le gars est inexistant. On joue à 10 contre 11.
C'est un point mort.
On joue à 10 contre 11. Le gars n'existe pas s'il marque pas ou s'il fait pas de passe décisive. Bon, il y a les grands matchs. Certes, on a besoin de ce type de joueur qui sort comme Thomas Müller un peu à l'ancienne. Qui sortait, on ne voyait pas du tout du match et qui sortait au bout d'un moment à la 88e.
Je peux pas te laisser faire cette comparaison-là.
Enfin, oui, peut-être.
Là, tu compares une Mercedes avec une Twingo. Non,
exactement.
Parce que Thomas Müller, même si tu le vois pas à la télévision, dans ses courses, dans ses déplacements, dans sa manière d'aspirer deux, trois défenseurs sur son côté, ça a rien à voir avec Memphis Depay.
Oui, c'est
Thomas Müller, on parle d'un joueur qui aurait mérité d'avoir le ballon d'or en 2014, quand même. Depay, il en est très, très loin.
Le trait que je compare entre Depay et Müller, c'est la capacité à s'effacer du match, sortir et mettre un but. C'est tout. La comparaison s'arrête là.
Ok.
Point.
C'est un peu hasardeux.
Müller n'aurait eu jamais le ballon d'or juste à cause de son style.
Oui, ça, le ballon d'or, c'est un match qui décide, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses qui sont discutables dans le ballon d'or qu'on discutera.
Bon,
c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est juste que ce qui est effarant, c'est que vraiment, il n'y a aucune envie. Ça fait tir, comme vous disiez, sur le premier crochet, après la temps d'avance, certes, ok, mais il n'y a personne. Et je veux bien qu'il y ait le temps d'avance, mais s'il y a personne qui se propose ou qui se démarque, qu'est-ce qu'il fait? il retourne derrière, il essaye de retrouver une solution.
Mais c'est les courses, le problème c'est que quand tu joues avec Traoré, qui pourtant est un joueur qui est rapide, et Memphis devant Fekir, il n'y en a aucun des deux qui fait les courses, qui fait les bons appels.
C'est ça,
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Non, mais c'est, c'est-à-dire que tes trois de devant sont constamment sur du décrochage.
C'est ça.
Donc si t'as ton attaquant de pointe qui décroche, il va libérer forcément un espace.
Ouais, c'est ça.
Puisque le défenseur central, tu vas l'aspirer un peu. Mais si t'as personne qui s'infiltre, qui va faire la course, justement, pour libérer, pour aller chercher cet espace-là. Parce que quand t'as une défense à 5 regroupée comme ça, pour la balader, il faut quand même essayer de...
Ils étaient à 4 en plus, ce soir.
Ouais, à certains moments.
Romain parfois était bas, mais.
Ouais, ouais. Ils étaient 6 même, des fois, hein, avec les ailiers qui revenaient donner un coup de main, sur les dernières minutes. Mais bon, tu peux jamais, en restant aligné, personne ne décroche, personne prend l'espace. Tu peux pas jouer comme ça. C'est stéréotypé.
Je pense que c'est la faute de l'entraîneur qui donne les mauvaises consignes. C'est purement une question d'attitude.
Mais les deux, mon capitaine. J'ai l'impression que ces joueurs sont surtout des garçons têtus. Alors, il y a une différence pour moi entre avoir du caractère et être caractériel. Et certains joueurs de l'équipe, de cette équipe en tout cas, ils flirtent souvent avec la frontière, quoi.
Je vois
souvent quelques joueurs qui sont brillants sur certains matchs où là justement ils font preuve de caractère, mais je vois pas de leader dans cette équipe. Je vois pas quelqu'un porter quand ça va mal.
Et je reviens une nouvelle fois à Fekir.
Fekir, Gilbert, a déjà été un vrai leader.
Il est présenté par Jean-Michel Aulas comme la méga star.
Mais je te pose la question. Un leader technique, oui, mais est-ce que tu penses que c'est un vrai leader?
Bah non.
Est-ce qu'il a déjà montré qu'il était un leader?
Mais
dans sa gare, non.
Ton leader, il est
mis à part
ton leader
dans les pieds, non.
Ton leader, voilà, il est dans ton leader, il est dans les buts. C'est ça qui est.
C'est exactement ça.
C'est ça qui est terrible. C'est que le leader, il est dans les buts.
Lacazette, c'était un leader. Un leader technique, un leader de vestiaire, un leader moral. C'est quelqu'un qui avait un vrai leadership sur les autres.
Lui avait du caractère.
Et je sais même pas si c'est le genre de joueur à avoir ce profil-là, psychologiquement parlant.
Tu vois aussi le fait d'avoir perdu tous ces joueurs qui étaient issus de la génération.
Entre
Tolisso, Gonalon,
Lacazette,
Grenier, tous ces gens-là qui représentaient quand même la formation lyonnaise. Alors je dis pas que j'étais fan de l'atmosphère de ces garçons-là qu'avaient créé, parce que on se souvient, c'était toujours difficile pour les recruter.
Valbuena, je me souviens.
Valbuena, et d'autres, ça a toujours été compliqué. Mais je préfère ce Lyon-là, où justement il y avait des joueurs représentatifs, des Gonalon, des Tolisso, des joueurs comme ça, qui faisaient le boulot.
C'est super.
Et je préfère ce Lyon-là que ce Lyon-là aujourd'hui qui ronronne, quoi.
Ce que tu dis, c'est super intéressant. Et je sais pas, Mounir, ce que tu vas en penser, mais c'est que je pense que Lyon est passé d'un paradigme à un autre, à savoir vouloir faire tout lyonnais, avec que des jeunes du fond de formation, au un autre modèle qui était, maintenant qu'on a de la thune, qu'on a payé nos stades, on va mettre des sous un peu, Traoré, Depay, et peut-être qu'il faut, et vendre un peu les bijoux de famille, hein. Je pense aux petits Jubels qu'ils ont laissé à Monaco, ils ont à Gezal qui est parti. Je pense que Lyon doit trouver un équilibre entre justement aller chercher à l'extérieur et quand même continuer de s'appuyer sur les bons joueurs qu'ils ont. Parce que là, par exemple, même si pour l'instant ils jouent pas encore en Ligue 1, mais Jubels et Maolida qui est à Nice, ça me chagrine de les voir. Non,
pour la plupart, tu sens que Lyon, ça représente rien pour eux.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
Ça représente rien pour eux. Tu sens pas qu'ils sont représentatifs d'une institution forte.
Esprit régional.
Mounir, le mot de la fin pour toi.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est juste que on est sorti d'une politique de tout lyonnais où on peut recruter. Sauf qu'on n'a pas recruté les bons gars, en fait. Dans l'attitude, surtout. Quand tu recrutes quelqu'un, tu le ramènes pour l'attitude. Je suis désolé. Quand je suis joueur de cette équipe et que je vois même plus perdre la balle et même pas faire l'effort de courir derrière pour la récupérer.
Claque avec Elon.
Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, il y en a marre. Et moi aussi, je vois que le gars fait rien, qu'on lui gueule pas dessus. Ah, moi aussi, je vais rien faire.
Puis si t'as vu le match d'avant, à 19h, où tu peux regarder certains joueurs qui sont dans la lumière à Lille en ce moment, quand tu vois la débauche d'énergie
et les courses,
c'est le jour et la nuit.
Mounir, merci beaucoup. Salut Mounir.
Ciao Mounir.
Merci, salut, bonne soirée.
Ciao, bon week-end.
Mounir, il serait resté jusqu'à minuit, tranquille lui. On a trouvé un Rémois. Il s'appelle Louis et il est là, il était au stade. Salut Louis.
Salut.
Salut Louis.
Salut Louis.
Bon.
Bonsoir à tous.
Un point à Lyon, c'est pas mal.
C'est surtout 4 points contre Lyon cette année, qui est pas mal.
Exact.
Est-ce que t'as pas des regrets ce soir?
J'ai des regrets sur le fait qu'on ne souligne pas beaucoup la performance défensive de Reims. Parce que
ce soir ou en général?
En général, parce que contre les grosses équipes, on arrive quand même à faire des gros matchs défensifs. Enfin, au point de vue défensif, le niveau défensif de Reims est quand même assez élevé cette année en Ligue 1. Pour être quand même une des meilleures défenses.
Mais t'as raison. Et je pense que Jacques-Alexis Romao fait une très très grosse saison et qui permet vraiment de très bien équilibrer cette équipe-là.
Bah, on a Romao au milieu qui fait une grosse saison et on a Abdelhamid derrière qui tient la baraque. Qui nous fait deux percées ce soir, je sais pas d'où il a sorti ses poumons à son âge.
Et surtout quand il reprend deux trois fois le ballon dans les pieds de Bertrand Traoré d'une manière ultra autoritaire, non, il fait un très bon match.
Et à un moment pendant 5 minutes, ça a été centre sur centre et il a tout pris de la tête.
Ouais.
Donc défensivement, c'est assez costaud et à chaque fois on dit que les gros sont pas au niveau contre Reims, mais j'ai plus l'impression que c'est Reims qui fait baisser le niveau des gros, ils arrivent à mettre en place sur le papier, ils sont en 4-3-3, mais sur le terrain, ils sont en 4-5-1. Et avec Chavaria qui est tout seul devant et qui fait ce qu'il peut.
C'est ça, ouais.
Mais on a quand même...
Et t'as Romao qui parfois joue quasiment libéro aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais, on est presque en... Ouais, en 5,
c'est une vraie 4, sentinelle qui a tendance à faire le petit pas en arrière.
C'est ça, ouais.
Ça, c'est la touche Bielsa. C'est Bielsa qui lui a appris à faire ça, rappelez-vous. Jacques-Alexis Romao. Oui, c'était le libéro de Bielsa.
Oui, enfin bon.
Et
là, il y a des consignes de son coach à Reims, Guillon, là, et c'est pas Bielsa. Hein. Détends-toi. Incroyable, celui-là. Pendant ce temps-là, Ludo reçoit des SMS de Bruno Genesio.
Je regardais la compo de Reims. Il y avait un joueur dont je me souvenais plus le nom, donc j'étais en train de regarder.
Engels?
Non, Conan.
Ah d'accord, parce qu'Engels, il aurait pu jouer avec Jean-Jacques Marx.
Mais exactement.
C'est pas la même période.
Bravo.
C'est dommage. Louis, t'as un truc à rajouter?
Non, juste que je trouve que Reims ont fait quand même un très gros match ce soir. J'ai pas de regrets, enfin, d'être allé au stade et d'avoir. J'ai eu des regrets quand je suis allé le voir au Vélodrome, parce que je suis allé voir Marseille-Reims aussi. Et là, par contre, Lyon a quand même essayé. Lyon s'est cassé le nez sur Reims, mais a quand même essayé, contrairement à l'OM qui avait même pas essayé du tout. Et ça avait été un non-match et une deuxième mi-temps catastrophique. Mais là, Lyon, ils ont quand même essayé pour même réussir à revenir au score. Mais je tiens quand même à souligner la qualité défensive de Reims et à montrer qu'on n'est pas l'une des meilleures défenses de Ligue 1 pour rien. Et c'est quand même bien de le souligner.
Et tu peux même avoir des petits regrets parce que franchement, en seconde mi-temps, quand Genesio repasse à 4 derrière, il y a 2-3 longs ballons où si vous jouez un petit peu mieux le coup, je pense que ça peut marquer.
Ah oui, c'est sûr qu'il y a des regrets.
Chavaria, à un moment, il joue très très mal le coup. Il a 5 mètres d'avance sur Denayer. Je sais pas pourquoi il revient, mais je sais pas.
Merci Louis, en tout cas. Bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée.
Salut. Voilà pour ce match. Ah oui, un dernier mot quand même sur Aouar, parce qu'il y a pas mal de messages sur Aouar, notamment sur son positionnement. Il y a beaucoup de Lyonnais qui disent, mais incroyable, Aouar, on le fait jouer devant la défense. Ce qui est du gâchis, me dit-on sur le hashtag RMC Live.
Donc c'est lui qui était buteur ces derniers temps. À chaque fois qu'il joue un cran plus haut, il est beaucoup plus décisif pour cette équipe-là. Et oui, c'est à juste titre que les supporters lyonnais se posent cette question.
Je pense que c'est pas le problème quand Aouar joue si bas, c'est que je pense que le problème c'est que c'est un joueur qui est ultra intelligent. Et je pense que Aouar et Ndombele, ça marche quand les deux joueurs savent qu'ils vont subir et qu'ils doivent être disciplinés et rester devant leur défense. Mais dès qu'il faut faire le jeu, j'ai l'impression qu'Ndombele part parfois un petit peu à l'abordage d'une manière un peu irresponsable et qu'Aouar, de par son intelligence de jeu, compense.
Compense.
C'est ça, ouais. Il se sacrifie un peu pour Ndombele.
Un partout entre Lyon et Reims. On attend des infos sur Fekir, hein. Blessure, pas blessure, choix tactique. Édouard G sur place, il nous appellera avant minuit. Et puis Lille qui gagne à Caen 3-1. On en reparle dans quelques instants de ce match, bien sûr, dans l'after. Je vous rappelle également le match de handball, hein. France-Brésil 24-22 pour la France. C'était le premier match de l'équipe de France dans ce mondial de hand. Le deuxième, ce sera demain. Tous les matchs sont sur RMC Radio officielle du championnat du monde de handball. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit avec Jonathan McCarthy, avec Ludovico Bragnac. On a parlé de Lyon face à Reims. Partout, on va maintenant parler de Lille, les gars. Mais juste avant de parler de Lille, il faut quand même que je vous rappelle que nous sommes en plein recrutement de l'After Academy. Je vous rappelle le principe, ça a démarré lundi. C'est très simple, vous pouvez faire partie de la bande de l'After. Eh ouais, faire comme Jonathan, qui au début était un auditeur fidèle de l'After et qui était tellement fort, il est devenu un membre incontournable de l'équipe.
On va augmenter le niveau quand même, parce que
bon. Bah, pourquoi pas, en tout cas, il faut de la qualité. Le principe est très simple, si vous voulez faire partie de la bande de l'After et être avec nous dans l'émission, vous allez sur rmc.fr, vous allez voir qu'il y a toute une stratégie, enfin il y a tout un processus à suivre. Et vous avez jusqu'au 20 janvier, c'est la première étape, pour envoyer vos vidéos. Il y a des thèmes de débat qui sont listés, alors les thèmes de débat un peu basiques, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions.
Tu as dit dans les tests, il y avait une heure de face-à-face avec Daniel, tu l'as précisé
ça, non, ça c'est pour après,
le deuxième test. Que les gens se préparent.
Puisqu'après, on sélectionnera les 7 meilleurs. Et ils viendront tous les uns après les autres dans l'After sur une semaine. Et là, effectivement, ils vont se prendre rigolo dans la face.
Ouf.
Donc préparez-vous, les gars. Enfin, bon, en même temps, quand tu te prends Jérôme Bretagne.
Ouais, mais
ou
bon.
Peut-être des gentils le vendredi. Le vendredi, c'est l'After des gentils.
Ouais. Mais bon, on s'aime tous. Attends, on est là, on bouffons, après on va border. Non, ça va.
Non, mais c'est
on est bon enfant ici.
Attends, on prend nos marques tranquillement.
Ah, d'accord.
Ouais, comme ça. Ah bon.
Ah bon. En tout cas,
je suis pas d'accord avec ça.
Si vous voulez tenter votre chance, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir 18 ans. Je le précise. Allez-y, vous allez sur rmc.fr, vous aurez toutes les infos. Vous allez jusqu'au 20 janvier. Vous précipitez pas. Vous avez encore le temps pour envoyer. Enfin, encore le temps. Encore 10 jours.
Non, juste pour notre petit auditeur lyonnais là. Comment il s'appelle, tu sais, qui était venu nous voir il y a 14-15 ans.
Bah oui, mais le problème,
comment il s'appelle déjà?
Pour avoir une vraie collaboration,
ouais.
Il faut être majeur.
Si on était dans d'autres pays, ça serait pas le cas.
Tu parles de Noah.
De Noah, voilà.
Qui est supporter de l'Olympique Lyonnais.
Incroyable sur l'OL.
Oui, bah, je me félicite que dans notre pays, ce soit pas possible, tu vois.
Exactement.
Ouais. Bon. Alors, Lille, petite stat sur Pépé. Messieurs, vous la retrouvez sur rmcsport.fr. Avec 13 buts et 6 passes décisives. Pépé est le troisième joueur le plus décisif dans les 5 grands championnats européens. 13 plus 6.
C'est pas 7.
Oui, ça va, t'as pas commencé à remettre en question les chiffres de RMC Sport, non?
Ah ouais, ok.
13 plus 6, c'est déjà pas mal.
C'est extraordinaire.
Voilà.
Honnêtement, il fait une saison, c'est remarquable à tout point de vue. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules puisqu'il avait pris la décision de rester une année de plus. Donc c'est quelqu'un déjà qui sait prendre des bonnes décisions, qui doit être sûrement très bien entouré, qui fait jouer ses partenaires, qui est bon à la fois en attaque placée et à la fois en attaque rapide. C'est un garçon qui va, à mon avis, défrayer la chronique dans les années à venir parce qu'il a le jeu.
Tu le vois aller très haut?
Ouais, je le vois aller très haut parce qu'il a, au-delà de cette capacité à aller vite, à éliminer, à dribbler, il a une aisance technique et une vision du jeu, et surtout c'est quelqu'un de collectif. Il joue pour les autres, il fait briller les autres, et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Jonathan, tu fais le même constat?
C'est lui que t'as envie de mettre en valeur, mais c'est tout le système offensif de Lille. Quand tu regardes le match de cet après-midi, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent.
Ça joue mieux que sous Bielsa quand même, Jonathan.
Bah, y a pas de problème pour le reconnaître. Non, mais c'est vrai.
Très bien.
Il n'y a pas de problème pour le
reconnaître.
Ils ouvrent le score très rapidement. Pépé,
on parlait tout à l'heure. Bon,
c'est qu'ils ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour faire.
Quand a défendu peut-être moins bien que n'a pu le faire Dijon, mais le premier but, on parlait tout à l'heure de prise d'espace. Premier but, décrochage de Leao. Remise, appui remise sur Mendes.
Mendes, Pépé.
Une touche de balle sur l'appel de Pépé en profondeur.
Mendes, il joue super mal le coup aussi, hein.
Petit enroulé. Emballer, c'est peser, aller circuler.
Et dans le scénario du match, regarde, tout de suite après, ils ont une occasion, il me semble, quand c'est Ninga, que Maignan sort bien, et puis il n'y a pas beaucoup d'autres occasions, et puis bam, dès leur deuxième vraie occasion franche, ils font la différence, il y a 2-0, emballer, c'est peser, quoi. Donc c'est une équipe qui est hyper réaliste. Physiquement, il y a une très forte densité dans les courses, dans les duels, au contact, et qui fait que ils arrivent souvent à étouffer leur adversaire. Et c'est une équipe qui est agréable à avoir joué, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, c'est une équipe qui a beaucoup de personnalité.
On va accueillir Charlie qui est avec nous au 32-16, qui est supporter lillois. Salut Charlie.
Bonsoir à tous les trois. Et j'ai envoyé ma petite vidéo pour l'After Academy, Gilbert.
Magnifique. Bah, écoute, elle sera visionnée comme toutes les autres. Je te souhaite de faire partie des finalistes.
C'est gentil.
Oui, Charlie.
Alors, mon petit Charlie, là, est-ce que tu estimes que ce soir, Lille a fait un pas vers le podium?
Écoute... Attendez,
j'y sais parce que quand on regarde les points, excusez-moi, il commence à y avoir un petit trou. Hein.
Et puis, ils reçoivent Amiens.
Ils reçoivent Amiens. Je vais vous le donner, le trou, quand même. Alors, vous allez me dire, il y a des matchs en retard, mais enfin...
Ah ouais.
Lille a 7 points d'avance sur Montpellier et Saint-Etienne, qui sont 4e.
Montpellier et Saint-Etienne ont deux matchs...
Oui, il y a des matchs en retard. Enfin bon, il commence quand même à y avoir un trou.
C'est vrai, c'est vrai. Et Gilbert, désolé, j'ai pas oublié de donner un petit bonsoir tout particulier à Ludo et le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Il sera toujours chez lui au LOSC
humainement et tout. Merci,
merci
Charlie,
pour tout.
Et bon, oui, t'as fait gagner une Coupe de France surtout. Le reste, bon.
Tu parles.
Oh, plus que ça. En tout cas, dans les
Attends, c'est déjà pas mal.
En 7 ans, j'espère avoir fait un peu plus quand même.
Attends, t'as ramené un titre, mon gars.
De même.
Oui, deux. Bon, après, on était pas tout seul. Hein. C'est le groupe qui était merveilleux.
Moi, la semaine, je suis avec Jérôme Rantaine, j'ai pas l'habitude de
Ouais, mais justement, j'essaie d'aller contre-courant.
Bravo.
On va charger en chaîne. On a les moyens, je pense. Je pense qu'on a les moyens si on fait des prestations comme on a fait ce soir. Surtout la première mi-temps, je trouve qu'elle a été super aboutie. La deuxième, un peu plus compliquée. Mais oui, et surtout si on garde, je croise les doigts pour qu'on ne vende pas Thiago Mendes, parce que c'est vraiment le métro du terrain.
Ouais, ouais.
Et j'espère vraiment de tout cœur que Gérard Lopez ne va pas être en mode bras de
ville. C'est quoi la situation exacte là? C'est que bon, t'as ta masse salariale qui est encadrée, c'est ça?
Oui.
T'as vendu
autorisation de recrutement.
Ouais. Donc t'as vendu Fodébal Autouré qui va te rapporter entre 11 et 15 millions et une plus-value extraordinaire parce qu'au final t'as dû juste payer les 15 000 euros au Paris Saint-Germain là après le procès. Donc, est-ce que t'es sûr? Est-ce qu'on est vraiment sûr que Lille doit vendre maintenant là tout de suite?
Je sais pas si c'est.
Je sais pas si ça doit vendre ou pas vendre.
En tout cas, Thiago Mendes a un bon de sortie.
Ouais.
Voilà, quoi qu'il arrive, président,
ça change pas chose,
il sera difficile. Non, mais c'est difficile. Une fois que t'as donné un bon de sortie,
tu peux l'avoir l'été prochain.
C'est difficile. Mais ça dépendra de. Ça va dépendre du joueur et des sollicitations.
Parce que Ludo, là, il est dans une équipe qui joue bien. Où il a sa place, où il fait des bonnes performances. Est-ce que tu penses pas que dans son intérêt, c'est d'attendre la fin de la saison?
Mais tu prêches un convaincu.
Non, mais en tant que joueur, en tant que joueur, si tu étais à sa place.
Convaincu, mais tu connais,
qu'il aura pas le choix,
tu connais les joueurs. Si demain, il a un gros club anglais, et tu sais, c'est les joueurs, ils réfléchissent comme tout le monde. C'est-à-dire, quand le train, il passe,
c'est quoi un gros club anglais?
Tu te dis, peut-être que
c'est quoi un gros club anglais? C'est quoi pour toi un gros club anglais?
Mais je sais pas, j'espère que vu le niveau qu'il affiche en ce moment, j'espère un top 10 anglais, quoi. Ou peut-être ailleurs, hein, ça peut être en Bundesliga, il a un profil pour jouer dans une très bonne équipe en Bundesliga.
Actuellement dans le top 10, t'as Watford, bon.
Ouais, bon, on espère un peu mieux pour lui, dans ce cas-là, oui, il peut mieux rester à Lille. Mais vu ses prestations du moment, je serais pas surpris qu'il y ait des gros clubs sur lui.
Des fois, il ne peut pas avoir son mot à dire aussi, Ludo. Je pense pas que Balot Touré voulait absolument aller à Monaco pour ma part.
Ouais, et alors, juste, voilà, on parle mercato, projection. Revenons un peu sur le jeu. Moi, il y a un truc qui me bluffe quand même. C'est Galtier. C'est-à-dire qu'en fait, le Galtier de Saint-Étienne est devenu Galtier de Lille. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais
c'est les joueurs, ils sont pas pareils.
Mais bien sûr.
À Saint-Étienne, il avait des joueurs.
Mais bien sûr, Gilbert, c'est.
Qu'est-ce qui l'a empêché d'être plus ambitieux dans le jeu comme il est aujourd'hui?
C'est amnésique.
Et c'est le profil de ses joueurs, Gilbert.
En fait, c'est ça le problème. C'est parce que Galtier, à Saint-Étienne, ça n'a pas toujours été chiant et ça n'a pas toujours été l'histoire du point qu'on nous a accordé.
Très souvent, était chiant.
Il y a des saisons où Saint-Étienne, c'était une des meilleures attaques de Ligue 1.
Il finissait souvent bien classé, je te l'accorde.
Mais il y a eu des saisons, notamment celle avec Aubameyang, où il jouait avec Aubameyang et Brandao, où c'est une des meilleures attaques de Ligue 1, où c'est spectaculaire et où justement son équipe de Lille là cette année, elle me fait un petit peu penser à ce que Galtier faisait quand il avait Aubameyang et compagnie. Aubameyang, Max-Alain Gradel et compagnie là, ça ressemble un petit peu dans l'idée et c'était tout aussi spectaculaire. Donc je pense que Galtier, sa force, c'est que c'est un entraîneur qui a pas vraiment de style, qui s'adapte vraiment avec les forces qu'il a en présence. Et là, il a vu que dans son équipe, il avait de la vivacité, beaucoup de vitesse, beaucoup de capacité à prendre la profondeur. Et du coup, ça nous donne.
Mais il y a aussi bien sûr que la patte,
c'est de l'intelligence.
Bien sûr que la patte Galtier, elle est présente. Mais il faut pas oublier, moi,
dans la rigueur
de ce que je connais un peu du football. Pour la plupart, les joueurs font aussi une grande partie de qui est l'entraîneur. Quand tu as une certaine équipe avec un certain profil de joueurs, et quand tu tombes sur cette équipe-là avec les fusées devant, qui vont de l'avant, ça va à 2000.
C'est pas la peine d'avoir 50 élimine, diplômes pour voir que tu peux jouer comme ça. Quoi.
Non, mais à un moment donné,
c'est du pragmatisme.
C'est ceux qui font sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain qui te donnent raison. Et avec des joueurs comme ça, ben forcément, ton style de jeu, il est plus porté sur la vitesse, la contre-attaque, le jeu
il est hyper pragmatique.
Mais non, mais voilà, moi, c'est comme Garcia, tu vois, on parlait de Rudy.
Qui ça?
De Rudy Garcia, tu sais, l'entraîneur que tu souhaites absolument qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Tu as la mémoire courte.
J'avais pas envie d'y penser ce soir, mais
je te le remets un peu, mais pareil, quand on était à Lille avec Claude Puel. Claude Puel, il avait à disposition un certain type d'attaquant. Quand Rudy, il arrive et qu'il trouve Gervinho, l'éclosion d'Eden, et que tu arrives à trouver Moussa Sow libre, et ben ça te change là, le visage aussi, de ton équipe, parce que ces joueurs-là, quand tu as des joueurs qui sont capables de faire des différences, et ben ça te change la fluidité de ton équipe. Donc bien sûr que Christophe Galtier, il doit au niveau, je vois sur la mentalité des joueurs,
motivation, la mentalité,
les courses, la motivation.
Et ça, c'est sa patte. Hein.
Quand je vois Pépé faire effort contre effort pour combler la montée de son latéral qui est resté au sol et qui fait 80 mètres en sprint pour se replacer, ça c'est l'esprit Galtier, ça sans aucun doute.
Et toutes ces équipes, elles sont comme ça.
Mais n'oublions pas que les joueurs ont quand même une grande influence sur qui est l'entraîneur. Si. Ouais.
Charlie, merci beaucoup.
Bah merci à vous trois, très bonne soirée.
Toi aussi Charlie.
Salut, à bientôt. Eric est avec nous maintenant, il est supporter du LOSC lui aussi. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Eric.
Ça va Eric?
Tous les supporters. Ah moi j'ai passé une super soirée.
Dis-moi, t'es le Eric supporter du LOSC qui est dans l'after depuis des années.
Ouais.
Parce que moi je me souviens de toi Eric, quand ça allait pas bien.
Mais vous m'avez sauvé d'une tentative de suicide, vous vous souvenez? Bah écoute, voilà, bah alors tiens, on va commencer par là tout de suite. Mmh. On va parler de Fodé Balou Touré.
Ouais.
Donc, il est parti pour 14 millions et tout.
Entre 11 et 14, t'emballe pas.
Ouais, mais avec les bonus et tout, bon, peu importe. Mais surtout, c'est Gilbert, t'as carrément raison, parce que, et on va revenir sur le Galtier, vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que l'année dernière, je pleurais de le voir jouer. Je lisais.
Non, mais Balou Touré l'année dernière, soyons tout à fait honnêtes, il était nul.
Non, c'était pas le même joueur, ça c'est sûr.
Plus mauvais joueur de Ligue 1. La panique se lisait dans ses yeux.
Exactement.
On aurait dit un petit lapin dans les phares de la vie. C'était horrible, quoi. Il était.
C'est pas faux.
Et t'as Galtier. Alors moi, j'étais prêt à faire à mettre un gilet jaune avant même que ça existe pour se débarrasser de lui. Et en fait, Galtier, cette force incroyable, c'est qu'il a gardé ce joueur, il l'a transformé. Et moi, je vous le dis, ce mec-là, il va se lourder à Monaco. On l'a vendu de force. J'en suis quasiment certain parce que le mec, il a pas 6 mois corrects de Ligue 1. Pour partir dans un club qui joue la montée comme l'année dernière avec Lille, ça m'étonnerait qu'il ait accueilli le projet à grands bras ouverts. Même si l'appartement avec Vumer, il est beau et tout ce que tu veux, je pense pas que ce soit un très
En général,
bon
c'est mieux avec piscine à Monaco et avec Vumer en plus.
C'est quand même cher, même pour un joueur.
Au soleil.
Mais écoute, ouais, on pouvait éventuellement se poser la question, mais on est obligé de faire aussi le LOSC qui est obligé de faire aussi avec le contexte actuel. Ils sont obligés de se mettre en accord avec les décisions de la DNCG, donc tu n'as pas le choix. Or, tu as cette proposition là, et franchement, autant Balou Touré, j'adore ce joueur, il fait une première saison, une partie de saison monstrueuse. Mais le petit qui l'a remplacé,
Koné,
il a été très bien.
Bah, Galtier en conférence de presse disait que Koné était pas loin du niveau de Balou Touré.
Mais non, mais
on peut
penser ce qu'on veut aussi parce qu'on parle de Christophe Galtier, on peut penser ce qu'on veut de Ingla et de Campos, mais force est de constater qu'ils ont quand même construit un groupe. Alors à l'époque, ils ont eu
ça, c'est le boulot de Campos d'ailleurs.
Trop d'ambition de faire un groupe plus jeune et de vouloir faire trop de business, mais les cadres qu'ils ont ramenés cette année, plus le développement de certains joueurs, il faut quand même dire que c'est du sacré bon boulot là, parce que t'as une certaine homogénéité dans ce groupe entre les anciens, les jeunes, la façon de jouer. Le petit là, on parle pas souvent là des trois là.
Il connaît,
qui est pour moi autant on peut mettre en valeur, en lumière les deux devant, les deux flashs devant. Mais lui, il est aussi, c'est le métro.
J'ai l'impression que Léao, il en a aussi sous la semelle. Je pense que j'ai hâte de voir cette deuxième partie de saison-là.
Son meilleur match.
Ouais.
C'est son meilleur match.
Je pense que c'est c'est un joueur qui avait peut-être besoin de ses 6 premiers mois pour s'adapter. Mais là, je pense que il a tout d'un très bon attaquant.
Et si tu veux, regarde, même la mentalité des joueurs qui rentrent. Le petit Arojo, là, qui joue pas depuis le début de saison. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Il l'a fait jouer en Coupe de France. Il a marqué. Il remarque encore ce soir. L'état d'esprit est remarquable. Et ça fait toute la différence.
Moi, ce que je voulais dire, en fait, tu sais, sur Balou Touré, sur le fait que, on l'envoie à Monaco dans de mauvaises conditions pour lui, je vais expliquer ce qui m'a fait très, très peur, en fait, le point noir de ma soirée, c'est sortie de Thiago Mendes à la 64e minute, qui baisse la tête, qui n'est pas content. Parce que je crois qu'il a compris pourquoi il est sorti. Parce que, clairement, il n'est pas sorti parce que le mec, il est à bout de souffle, croyez-moi, puisqu'il ne le sort quasiment jamais. dans ces matchs-là, on sort toujours la même chose. On sort Ikoné parce qu'il commence à vouloir... parce que Ikoné, je suis d'accord, il a du talent, mais il est ultra inconstant. Et c'est tout sauf un élément important de l'équipe. Contrairement à Yacine Benzia qui, lui, avait envie de jouer. Je crois qu'Ikoné, il a beaucoup, beaucoup de talent, mais il doit progresser sur sa volonté de faire la différence, d'avoir des stats et tout. Ça, c'est son problème. Et si on sort Thiago Mendes à la 64e minute, eh ben ça, ça me fait très, 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 très peur.
Tu penses que c'est parce que tu veux pas qu'il se blesse ?
Bah, bien sûr que oui.
Ouais.
Bien sûr que oui.
Je pensais la même chose quand il le sort. Ouais.
Et lui, je pense sincèrement que lui, il comprend, que lui, il fait la gueule. Parce que quand tu regardes à la mi-temps, quand on siffle la mi-temps pour Lille, ce que j'ai bien aimé, et on parlait, ça fait écho en plus à ce que disaient les Lyonnais tout à l'heure, c'est que tu vois les Lillois qui ont du plaisir à se parler, à rigoler, les AO, Pepe, Ikoné, Mendes et tout, et tu sens que bon, ils sont contents de leur mi-temps et tout, il y a quelque chose, et je pense que Mendes, il a envie de rester cette saison et tout ça. On va devoir le vendre, c'est pas le bon timing, on le sait, parce que tu peux pas vendre ce joueur-là une fortune parce qu'il a pas un seul match de Coupe d'Europe, alors que tu le gardes un an, c'est un mec qui vaut largement Tanguy Ndombele, hein. En plus, il est brésilien, c'est dire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a, je pense, cette pression que notre projet, c'est une dynamique de faire tourner, entre guillemets, une machine à laver, enfin, tu rentres de la matière première et tu sors un truc un peu doré. Et moi, je crois que Thiago Mendes, il est déjà bien doré pour beaucoup de clubs. Si j'étais le PSG, au lieu d'aller recruter des mecs qu'on ne connaît pas, mon problème, c'est qu'il n'est pas au niveau Ligue des Champions là cette année, mais c'est un top joueur, quoi. Moi, il me fait penser à Idrissa Gueye, qui, le pauvre, est à Everton. Mais
il se débrouille bien là-bas.
Ouais, mais il est top, ce joueur.
Ça n'a rien à voir avec Idrissa Gueye.
Pas le même profil du tout,
Eric.
Eh ben, alors, je suis pas d'accord avec toi du tout, Ludo, parce que toi, t'as connu un Idrissa Gueye Mais non, moi j'ai
Un Lillois qui ose s'opposer à Ludovic Obraniak.
Tu seras châtié, Eric.
Non, mais en fait, tu vois, quand tu regardes la saison avant qu'il parte Idrissa Gueye, on joue pas terrible, on a quelques bons moments et lui, il est vraiment top parce que
Idrissa était très bon dans sa capacité à récupérer le ballon et à trouver des solutions sur la latéralité. Thiago Mendes, sa grande force, c'est qu'il arrive à trouver beaucoup de verticalité, soit par ses conduites de balle, soit par son jeu de passe.
Pied, il est quand même pas mal.
Et sa balle sur le premier but de Pépé, avec toutes les qualités que je peux reconnaître à Idrissa, je l'ai rarement vu faire des choses de ce style-là. Thiago Mendes, il a quand même un supplément d'âme technique.
Ouais.
Et porter pour alimenter nos flèches devant que n'a pu l'être Idrissa.
Bah après, moi j'avais aimé beaucoup de choses d'Idrissa Gueye, même il avait su marquer quelques buts, dont un que j'avais beaucoup aimé au Vélodrome. Bon, je suis d'accord avec toi, Ludo, et tout. Et c'est vrai que quand t'as un joueur comme Idrissa Gueye dans ton effectif, tu le fais défendre parce que il coupe toutes les. Enfin, c'est voilà. Thiago Mendes, lui, il a un énorme talent. Il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Et ça me fait peur parce que en plus on l'aime bien. Je pense que c'est un bon gars et tout.
C'est pas fait encore, hein, parce que comme le disait Jonathan, peut-être que le transfert de Balotouré qui était peut-être pas prévu il y a quelques mois ou quelques semaines, peut-être que ça peut
changer la donne. C'était une opportunité, hein, parce que Monaco avait quand même recruté à ce poste-là.
Vu sa réaction de sortir millions, tête basse, peut-être qu'effectivement lui il a pas envie de partir. Peut-être qu'il se sent bien là. Et peut-être qu'il a envie de rester.
Il a l'air d'avoir une vraie bonne ambiance entre là-bas.
J'ai une autre hypothèse sur tout ça, qui peut-être. Alors là, je sais que Jonathan, tu vas adorer.
Dis-moi.
Non, tu vas me crier dessus. Mais mon hypothèse est la suivante. Et si les dirigeants du LOSC n'avaient pas envie d'être deuxième? Je m'explique. Louis-Nicolas, il avait expliqué un truc. C'est que quand tu fais une bonne place, tu vois, genre le titre ou deuxième ou n'importe quoi, alors c'est la fête, champagne et tout, c'est bien. Le problème, c'est que il y a beaucoup de mecs qui viennent sonner à ta porte pour demander des revalorisations, des augmentations.
Ouais, mais
et les Brésiliens,
le problème de Louis-Nicolas, c'est qu'il leur a dit oui.
Je vais te couper tout de suite et je vais te donner un contre-argument à ta théorie de la conspiration. C'est que le modèle lillois n'est pas le même modèle que le modèle montpelliérain, et que pour le modèle lillois de se qualifier en Ligue des Champions, et même juste si que tu montres tes joueurs en Ligue des Champions, tu vas en tirer plus d'argent.
C'est quoi, c'est 25 millions? Tu prends 25 millions pour le ticket.
Mais c'est surtout une formidable vitrine. T'es un supermarché. Ce club, c'est un supermarché.
Et
c'est
génial.
T'es indexé sur le classement.
Non. C'est pas une vitrine de prendre des branlées contre des clubs, parce que n'oubliez pas que quand on envoie des clubs en Ligue des Champions de cette année, coup de bol, Lyon se qualifie et tout ça, mais d'habitude, t'as toujours des clubs français qui sont bien viandés. Des joueurs en montrée, ça n'arrive pas souvent. Si vous regardez sur les 5 dernières années, moi je me souviens d'Ile qui prend une caisse à Dominique contre le Bate Borisov. Je suis pas sûr.
C'est bon, ça tient du fantasme là, je sais pas, mais bon, moi je peux pas imaginer une seconde qu'en tant que directeur sportif, tu te dises bah non, on va pas finir sur le podium pour pas faire
la Ligue des Champions. Merci à toi en tout cas.
Je dis juste que c'est pas indispensable.
Puis l'avantage avec toi Eric, c'est que quand Lille est champion, t'es dans l'after. Quand Lille est dernier, t'es dans l'after. Et quand Lille vend des joueurs, t'es dans l'after. Voilà. Salut Eric.
Merci à la parole. Et bonne soirée, on vous écoute. Hein.
Ciao, ouais, ciao.
Salut Eric, bon à bientôt. Allez, dans quelques instants, on revient. Marseille et Nice au programme. Conférence de presse, Garcia s'est exprimé. Il dit, je suis l'homme de la situation. Et puis à Nice, River s'en va. Toutes les infos dans quelques instants. Évidemment, je vous rappelle que Lille a gagné à Caen 3-1. Et Lyon et Reims ont fait égalité à partout. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak est là, Jonathan McCarthy est là. Après la Ligue 1, on va parler de la Ligue 1. Marseille avec Garcia qui s'est exprimé aujourd'hui, le coach Rudy Garcia qui dit « Je suis l'homme de la situation ». Voilà, Jonathan se concentre. Je te vois déjà trembler là. Il est déjà en train de transpirer le gars. Il a pas encore entendu Rudy Garcia, il est déjà en train de transpirer.
Je l'ai vu là, qu'on fait pas en direct.
Calme-toi. Allez, on écoute.
Ben, ne croyez pas que c'est une posture médiatique. Je pense que pour être efficace, il faut pas être pollué justement par tout cet environnement négatif. Je pense qu'il faut rester positif, faut rester lucide surtout. Ouais. Si je vous dis je vais très bien, tout le monde va, beaucoup vont interpréter en disant bah de toute façon alors il s'en fout. Si je vous dis je vais mal, je vais pas avoir les épaules pour. Donc quoi que je vous dise, de toute façon vous l'interprétez ou vous l'interpréterez comme vous voulez. Donc quelque part, j'ai pas trop de temps à perdre avec ça. Moi, qu'est-ce qui compte, c'est dimanche que vous puissiez ou que vous soyez obligé d'écrire que l'Olympique de Marseille a battu l'AS Monaco. Il y a que ça qui compte pour moi.
C'est assez malin comme posture.
Exactement, ouais. Mais ce qui n'est pas très malin, c'est l'intégralité de la conférence de presse donc que j'ai suivie aujourd'hui. C'est que son discours est une fois de plus totalement irresponsable. C'est quelqu'un qui n'assume pas ses actes, qui ne reconnaît pas ses torts. Quand on l'entend dire cet après-midi que le club se porterait mieux, l'équipe se porterait mieux si il y avait des recrues, ça me semble totalement se défausser de ce qu'il a fait cet été, à savoir
dépenser jusqu'à aller aujourd'hui.
Oui, mais c'est lui qui a dépensé les 58 millions d'euros pour acheter Tchaletatsar, Radonjić et Strootman. Donc je suis désolé, tu vois, à part quand tu dis on serait mieux avec des recrues, il te jurait mordicus qu'il n'y avait pas besoin, que son effectif était complet. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est totalement dépassé, que le lien est brisé avec son vestiaire. On a vu ce qui s'est passé, hein, les réunions, les mises au vert, machin, Gustavo qui a râlé, t'as les remplaçants, tu te rends compte, dans une équipe, dans un groupe, quand t'as des jeunes qui jouent jamais, du style Christopher Rocha et Escales, qui pousse une gueulante dans le vestiaire, c'est que le groupe, il est en train d'imploser. Je sais pas ce que t'en penses, mais Christopher Rocha, elle a jamais joué en Ligue 1.
Dans la conférence de presse, on lui a demandé est-ce qu'effectivement les différences de salaire sont à l'origine des problèmes dans le vestiaire. Et là, c'est bidon.
Mais c'est hallucinant. Ouais. Après ça, il peut pas le dire. Il va pas l'avouer en conférence de presse. Mais pour terminer sur ce que je disais, c'est que je trouve ça bizarre que le mec, il arrive et qu'il dise ouais, ça va pas, mais on a besoin de recrues. Coco, t'as eu de l'argent, tu l'as dépensé cet été, t'as fait n'importe quoi avec, t'as pas voulu écouter Zubizarreta, parce que si t'avais écouté Zubizarreta, je dis pas que ça aurait été mieux, mais t'aurais eu d'autres joueurs, tu fais n'importe quoi sur chacune de tes compositions d'équipe, à chaque fois que tu perds, il y a des compilations qui tournent sur Twitter, les 13 réactions de Rudy Garcia après les 13 défaites,
c'est du grand n'importe quoi, ça.
Tu n'assumes rien, c'est à chaque fois la faute de l'arbitre, à chaque fois parce que bon, t'as après, bien joué, mais t'as pas fait chose, stop maintenant.
Je vais pas forcément le défendre, mais quand on fait un montage des moments les plus grotesques des confs, forcément, tu n'en ressens pas beaucoup.
Le problème, c'est qu'il y a de la matière à être grotesque pour faire ce montage.
Ludo, qu'est-ce que tu penses de la situation marseillaise? Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation?
Écoute, ça va peut-être surprendre Jonathan, mais autant je pouvais le penser avant la trêve. Je me disais justement que la trêve allait aplanir certaines choses, qu'il aurait peut-être encore des ressorts psychologiques surtout pour pouvoir remettre cette équipe dans le sens de la marche. Et cette défaite là en Coupe de France qui arrive là tout de suite est terrible.
Ouais.
C'est terrible. Et je suis pas sûr qu'il puisse s'en remettre de cette défaite là. Honnêtement, tu vois un peu l'atmosphère dans le vestiaire, ça respire pas quand même l'entente cordiale. il y a pour moi un mec qui pourrait éventuellement changer la donne et réussir à peut-être fédérer tout le monde. Il y a eu apparemment un discours, et pour moi, ça serait le type qui pourrait peut-être raccrocher les wagons entre les joueurs et faire que... Parce que ces joueurs-là, ils ont quand même tous de la qualité. On va pas leur enlever ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils sont de la qualité, elle est là. Mmh. Là, maintenant, on est dans une période où peut-être trop d'ego, trop de confiance, ou plus assez de confiance maintenant, plus d'entente.
Et moi, de coupe du monde.
Et moi, pour moi, celui qui pourrait ramener tout le monde, c'est Luis Gustavo. Voilà, parce qu'il a cette aura, il a ce charisme, il a cette crédibilité, cette légitimité. Et pour moi, je ne vois que lui qui puisse réussir à ramener le vestiaire marseillais, à consolider le vestiaire
malheureusement,
marseillais.
Malheureusement,
ça me paraît compliqué. Je pense que Rudy a utilisé toutes ses cartouches et je pense que ce joueur-là peut éventuellement avoir du poids sur les joueurs importants de cette équipe-là. En les rapprochant.
C'est ça le problème. Sauf que son influence dans le vestiaire marseillais est assez limitée. C'est un des cadres, certes, mais c'est pas.
Des infos, il aurait fait un discours qui a.
Mais ils ont tous fait des discours. Même Christopher Rocky a fait un discours.
Mais lui a parlé et quand lui a pris la parole, apparemment.
Qu'est-ce qu'il a dit? Rocky, ça se trouve, il a demandé, est-ce que vous voulez une pizza 80?
Non, Rocky, c'est ce qu'il a dit. Rocky, c'est grave. Rocky Escalès, c'est donc, vous en avez jamais entendu parler, vous, de Rocky Escalès.
Bah, si, c'est le gardien.
Troisième gardien. Et Christopher Rocky, troisième latéral. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça nous dégoûte.
En toute honnêteté, s'il y a bien un mec qui, quand il parle, les joueurs doivent regarder leur pompe, et se dire, ce mec-là, on l'écoute, il parle, l'écoute.
Attendez, je vais vous dire ce que les deux petits jeunes, quand même, ils ont quand même dit. Alors, Christopher Rocky a dit, moi, ça m'ennuie de venir au stade parce qu'il se passe plus rien. Je préfère vous regarder de ma télé. Et Escalès a dit, c'est vraiment écœurant parfois de se dire qu'on s'entraîne autant et que c'est toujours les mêmes qui jouent. Tu te rends compte? Deux jeunes issus du centre de formation qui sortent ça.
Bon, passons à Nice.
Ça va mal.
Il reste 4 minutes, là. Passons à Nice. Écoutez, Jean-Pierre River, coup de tonnerre à Nice. Il va quitter le club, ainsi que Fournier. Donc, c'est l'attelage River-Fournier qui était quand même à l'origine de pas mal de succès niçois récents, qui quitte le club au mois de mai. On écoute le président toujours actuel de Nice.
On a depuis de longs mois maintenant quelques petites tensions avec nos actionnaires. Je disais donc, ces tensions sont toujours un peu plus exacerbées quand on rentre en période de mercato. Avec Julien, on a considéré que c'était plus possible pour nous de manager le club tel qu'on a fait l'habitude de le faire. On a donc informé nos actionnaires qu'il était assez urgent de trouver des gens capables de manager le club à notre place.
Voilà, c'est assez clair. Alors, il détient encore une...
C'est ce qu'on appelle l'effet Balotelli.
River et Fournier détenaient encore eux de 20% des parts. Donc, ils étaient tous les deux actionnaires du club. Donc, je rappelle que ce sont des Chinois et des Américains qui sont les actionnaires majoritaires, dont le fameux Chian Li, un Sino-Américain. Donc, ça ne s'invente pas. voilà. Bon. Inquiétant. Les supporters niçois, sont très inquiets. Ils disent, attends, on sait ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va trouver, quoi.
Mais il y a de quoi? T'as vu les résultats qu'ils ont eu, les deux?
Ah bah oui, en termes de recrutement. Bon, après Balotelli, ça se finit mal, mais sur l'ensemble de Balotelli,
ils ont ramené quelque chose qui n'avait plus été vu. Ils ont tenté des risques, ils ont fait des coups.
La meilleure cellule de recrutement
avec panache.
Mais rapport qualité prix, c'est la meilleure cellule de recrutement.
Sur le choix des entraîneurs, ramener Claude Puel, Favre, faire venir Vieira.
Mais on t'oublie même les coups
qu'ils ont tenté,
Ricardo Pereira, Zvitanić, ils avaient la meilleure cible de recrutement rapport qu'il
y avait un savoir-faire.
Et un vrai modèle.
Et je pense que il doit y avoir je pense que le mercato d'été,
les Américains prennent le pouvoir, les gars.
Qui arrive, oui, sûrement.
À Bordeaux,
à Marseille,
à Nice, à Marseille.
Ouais.
Ils sont là les caries.
Bah, le pouvoir, ça dépend qui est majoritaire avec les Chinois. Qui est majoritaire dans cette histoire?
Attends, je vais voir si j'ai le détail du... attends, j'ai ça. Donc 49% pour le groupe minoritaire des historiques et 51% pour un... Alors, en fait, c'est un conglomérat sino-américain.
Ouais, ouais.
Voilà.
Mais c'est ça qui est un peu inquiétant.
Et tu te rends compte le foutoir là-dedans,
exactement.
Tous les interlocuteurs.
Parce que de toute manière,
et c'est ça qui doit, doivent les gonfler à un moment donné.
Tu sais que quand tu prends un club de foot, tu vas en France, tu vas pas te faire d'argent.
Hop, info Fekir. Coup à la cheville, dit Genesio. Ça relativise donc la sortie à la mi-temps de.
Où il le protège.
où il le protège. Mmh. Il nous reste une minute. Vous dire, par ailleurs, que Fabregas, c'est officiel, a signé 3 ans et demi à Monaco.
Parfait. Et ça fait plaisir.
Classe, et a priori, pas d'indemnité pour Chelsea. Hein.
C'est encore mieux. Par contre, il va se gaver en salaire, le cochon.
Et puis, William Vainqueur, lui, ne viendra
bien,
pas.
Pour venir dans cette situation-là.
Vainqueur ne viendra pas. Il n'a pas dit le club à Monaco remplit les exigences du bilan médical.
Alors, une blessure au mollet, ouais.
Une blessure ou un truc qui traîne.
Mollet. Ah, il le voulait opérationnel tout de suite.
Bah oui, mollet, en plus, c'est long à se remettre. Et puis, au PSG, Buffon blessé. Neymar et Mbappé, selon Tourelle, sont très, très fatigués, donc très incertains.
Oh non, mon petit gazon.
Oui, mon petit, c'est pas bon pour mon petit gazon, mais moi je m'en fous, je les ai pas. Moi, excuse-moi, j'ai Dacosta et Zoé. Neymar, il a quand même passé 15 jours au Brésil, quand même, le gars.
Ouais. Bah,
il revient très très fatigué.
Bah, il a dû festailler un petit peu, hein, forcément.
Voilà. En tout cas, ce sera ce week-end, enfin demain, en l'occurrence, pour le match du PSG. C'est fini pour ce soir. Dernière petite info. 35 000 euros d'amende pour le PSG suite aux incidents face à l'Étoile Rouge. Donc, on peut considérer que le PSG s'en sort plutôt bien dans cette histoire. Parfait. Un partout entre Lyon et Reims. 3-1 pour Lille à Caen. Ludovic Obraniak sera là demain soir dans l'after, bien sûr. Jonathan Bacardi, lui, sera devant sa télé.
On l'a assez vu pour le week-end.
Exactement. Ouais. Sur ce, bonne nuit à tous. Et à demain soir dans la tour, aux alentours de 22h, bien sûr. Bonne nuit, bye bye.
RMC Football Show, l'After Foot.